Salut et bonsoir, bienvenue sur La Courte Échelle, du coup émission contre les prisons et toutes les formes d'enfermement sur 88.4 FM tous les dimanches soirs à 19h30 jusqu'à 20h. Bonsoir, c'est une émission qui parle de prison mais aussi de garde à vue et de centre de rétention. Si jamais vous avez envie de nous appeler en direct et que c'est possible, le numéro c'est 04 91 08 28 10. Je répète, 04 91 08 28 10. Pour nous écrire par courrier, vous pouvez envoyer des lettres à Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, au 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et c'est aussi possible de nous envoyer des mails sur la-courte-échelle@riseup.net. Bonsoir, alors aujourd'hui on est deux, il y a Liane.
Coucou.
Et il y a moi, Charlie. On avait envie ce soir de vous lire un texte qui a été écrit dans un magazine qui s'appelle de Funambuliste, avec un numéro sur les prisons et notamment les soulèvements dans les tôles. C'est tout récent, ça a été écrit sous mois de mars et d'avril 2024. Et nous, on avait envie de parler en particulier d'un article pour rendre les murs à la poussière, qui a été écrit par Meriam Baya Harfaoui. Et du coup, on va commencer sur une petite lecture. Tu veux commencer à lire ?
Ça marche. Tunisie, 2006. Mon père vient de mourir. J'ai 16 ans. Je suis dans la pièce où les continuités de son corps rendu à la terre attendent de s'articuler dans le monde des vivants, à l'ombre du paysage asphyxié par la dictature qui a signé sa mort et mon exil en France plus tôt. Des livres, des rapports de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, dont il était secrétaire général, d'Amnesty International, de l'Union générale des travailleurs tunisiens, de comptes rendus de réunions. Je dépèce les explications posthumes de ses absences répétées, de son absence définitive. Un livre attire mon attention, parce qu'il est écrit en français et que je ne sais plus lire l'arabe. Parce que je suis en colère, et que les mots « torture en prison » écrits en gras sur la couverture apportent une réponse directe à la douleur obsédante qui m'habite. Les témoignages glaçants de militants et militantes se succèdent, décrivant avec précision les actes d'endolorissement qui leur sont infligés en geôle. Les coups, les brûlures, les électrocutions, les suspensions, les privations de sommeil, les contorsions à durée indéterminée, comment ces actes affectent leur sens, leur chair, leur esprit. Comment, à force, leur perception de l'espace-temps et d'eux-mêmes est défigurée. Liste des contributeurs et contributrices. Adel Harfaoui, qui est donc le père de la personne qui écrit. Chaque mot devient image. Chaque image a le visage de mon père. Et l'ultime effort de vie, décrit et répété page après page, devient ma définition de résistance. Je percute alors, la prison fait partie de ma famille, de sa construction, de son organisation, de sa transmission. Mon père est-il déjà venu me chercher à l'école sans la prison ? Mon frère, une quinzaine d'années plus tard, a-t-il déjà mangé en cellule sans nous ? Cette rencontre radicale avec le fait carcéral m'impose de la remettre au centre de ma perception, comme mon père et ses camarades l'ont mis au centre de leur lutte.
Je continue. J'ai traversé la prison comme proche de prisonnier, et les expériences que je livre et sur lesquelles je tente d'élaborer des hypothèses de solidarité ont précédé toute conscientisation politique. Je viens d'une famille de militants, militantes, tunisiens, tunisiennes. Je viens d'une famille maghrébine de milieu populaire en France. La prison a fait partie de nos vies comme une toiture. Elle a organisé nos rapports, sous-tendu nos interactions au monde et nous a construits dans nos sociabilités. Soit factuellement, lorsqu'elle a existé dans nos quotidiens, soit idéalement, lorsque sa menace a conditionné nos comportements. Ainsi, la prison a toujours été là et le sera toujours tant qu'elle existe, en mettant en relief les transmissions qui nous ont été faites et la manière dont, du conditionnement carcéral de mon père à celui de mon frère, nous avons fabriqué les contre-outils spatio-temporels de résistance. J'espère rendre justice à mes proches et acter la nécessité d'une complicité matérielle entre l'intérieur et l'extérieur.
La prison n'est ni un trou d'air dans le temps, ni un bâtiment hors sol déconnecté de notre réalité sociale. Elle est un présent, une omniprésence, un continuum de lutte à travers la poussière. Enfant de prisonnier. 2006, Jane Duba se remplit de militants et militantes d'associations, de syndicats, de collectifs, venus rendre hommage à Adel Arfaoui, donc le père de la personne qui crie. Le régime de Ben Ali interdit le cortège funéraire, dépêche l'armée depuis Tunis. Le local qui doit accueillir les condoléances est scellé et certains amis tabassés par la police. J'ai 16 ans, je rencontre mon père, mon camarade, à son enterrement.
Pardon, j'arrive. Hein. Je retrouve juste... Ok. Donc la suite. Je quitte la Tunisie pour la France définitivement lorsque je suis enfant. La menace plane, la prison plane. Nous voudrions être autre chose qu'enfants de prisonniers ou de martyrs. En Tunisie, c'est la condition révolutionnaire et résistante à la dictature de la famille qui dessine les murs de la prison. En France, c'est sa condition d'immigré de milieu populaire. On n'y échappe pas, on fluctue avec. Tant que l'État existe et tant qu'on est paria de l'État. Mon père a fait son premier séjour en prison à 19 ans. De retour d'un congrès à Malte, il est arrêté à la frontière tunisienne et envoyé en Gaule. Il traverse la prison pour une première fois. Elle se met à l'habiter pour toujours. Rompre avec la fiction intérieure-extérieure, c'est aussi considérer la prison dans sa dimension globale. Elle ne commence pas à l'entrée, elle ne s'arrête pas à la sortie.
Pour mon frère, 15 ans plus tard, qui sera quoi qu'il arrive un ancien, il sera aussi quoi qu'il arrive un ancien prisonnier. Pour mon père au même âge, il recomposera drastiquement ses priorités de lutte à l'aune de cette première expérience carcérale. Adèle vit dans la maison familiale qui n'a jamais cessé d'être modelée en fonction des besoins. Ici, l'argile s'adapte à la nécessité. Un de ces remodelages intervient peu après cette incarcération. La police prend l'habitude de perquisitionner la maison. Mon père et ses frères construisent alors un couloir secret, entre les chambres, la cuisine et la cour, qui permet de sortir par l'arrière de l'habitat quand la police se pointe devant. Configurer l'espace pour gagner du temps. Ce chemin, mon père l'empruntait pour fuir. Un geste architectural, familial, anecdotique, mais qui fait peser le juste poids de la prison chez moi. On tente d'y échapper depuis le salon déjà. En décembre 1983, le Fonds monétaire international exige un plan d'austérité pour la Tunisie et réduit les subventions sur les produits céréaliers qui constituent alors 10% du budget de l'État. Le prix du pain double. S'ensuivent des émeutes dans plusieurs villes du pays qui ne prendront fin qu'en janvier 1984. La répression est féroce. Des centaines de personnes sont blessées. Des centaines d'autres sont arrêtées, condamnées à de longues peines, à des travaux forcés, à perpétuité, à mort. Des centaines de ces personnes sont tuées. À Jane Duba, le couloir secret ne suffisait plus pour protéger la famille. Alors mon père a construit de nouveaux murs. Une petite maison, accolée à la maison familiale, mais qui donne, pour les autres, l'illusion d'une séparation. Pendant les révoltes du pain, la maison est transformée en hôpital de fortune, hissé d'un drapeau blanc. Mon père est arrêté, il risque 20 ans. Il y échappe de justesse. Quelques années plus tard, il cassera un des murs de la petite maison pour le prolonger d'une pièce quasi triangulaire et étroite. Ici, l'argile s'adapte à la nécessité. Ce sera ma chambre d'enfant. Depuis Toulouse, adolescente, où j'entretiens un dialogue régulier avec mon père, je défais les fictions, comme je peux. Et, en miroir de l'endroit d'où je viens, je rédige des actions urgentes pour demander la libération de prisonniers et prisonnières politiques à travers le monde. Ce qui m'est transmis, c'est la persistance de cette réalité.
Autre chapitre qui s'appelle « Sœur de prisonniers ». On a réussi la première épreuve, me dit ma petite sœur de 6 ans, tandis qu'on longe les gros blocs en béton de la prison. Maintenant, il faut affronter les méchants. Sa voix basse temporise l'angoisse. Je me laisse traîner par sa main et son jeu. Sa fiction devient le meilleur pansement. Notre mère nous devance, absente à elle-même. Trop rapide pour son propre corps. Elle connaît la chorégraphie par cœur. Samedi après samedi, qui se compte en années maintenant. Ici, les portes ne s'ouvrent que d'un côté. Est-ce que ce sont encore des portes ? On a réussi, on a gagné. Le parloir, ma petite sœur, ma mère, mon petit frère, tout à côté. À l'instant où A, mon petit frère, est envoyé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Seis, toute la famille recompose sa temporalité. La suspension et la latence, l'urgence et la patience coexistent. Le rythme quotidien se recompose et se réorganise, faisant acte d'un autre ordre spatio-temporel. La cellule où il est incarcéré est à 20 km de l'appartement. Pour autant, elle en devient sa prolongation. Physiquement séparée, la vie commune se réinvente et transcende cette matérialité. Passe par la ritualisation d'un nouveau quotidien, d'une nouvelle routine, d'un nouveau calendrier. Celui des échéances procédurales corrélées au calendrier familial. Lorsqu'on se met à table, ma mère attend un message ou un appel de lui pour commencer le repas. Nous mangeons ensemble. Nous suivons les mêmes séries, les mêmes sorties d'albums, les mêmes matchs de foot. A est absent, mais tout acte sa présence inaltérable. Le dialogue ne s'interrompt pas, le lien se maintient. C'est comme ça que la vie, au-delà d'une mise en pause, continue. Non pas en rupture, comme si ce temps carcéral était une parenthèse dans notre histoire, mais en constellation. Nous apprenons à vivre ensemble différemment. Et c'est parce que cette future est entretenue que nous pouvons nous organiser et lutter ensemble, chacun depuis son endroit, chacun depuis sa condition sociale propre, tout à travers la poussière.
En avril 2018, Jawad est tué au mitard de la maison d'arrêt de Seis. Des émeutes éclatent. Dans la ville, le relais peine à se mettre en place. La prison revient au centre, mais on ne s'est pas encore habitué collectivement à la pensée de manière permanente. Quelques semaines plus tard, A est transféré avec 7 autres personnes, considérées comme responsables des révoltes, à la prison de Mont-de-Marsan. Leur déplacement punitif doit ramener le calme. Il nous faut désormais 3 heures pour aller, 3 heures retour, chaque samedi, pour 3 quarts d'heure de parloir. Cette reconfiguration du temps renforce l'espace, les murs s'épaississent. On s'accroche à de nouveaux rituels, à une nouvelle routine. Un nouveau calendrier. À Mont-de-Marsan, mon frère rencontre de vieux prisonniers basques. On joue aux échecs, il me parle de la prison. De leur interaction, naît une transmission restituant la prison à un endroit de circulation et d'organisation politique ab temporis. Mon frère renforce ses liens avec les autres Toulousains, les transférés de Seis, nommés comme ça par l'administration pénitentiaire. Maltraités, subissant quotidiennement la répression, la violence et le racisme. Les Toulousains, mon frère en tête, entament une grève de leurs conditions. Être enfermé dans l'enfermement jusqu'au transfert. Arrêter le temps jusqu'à se le réapproprier. Un blocage au mitard. Stratégie héritée. Dans sa cellule, mon frère tend un drap pour cacher l'œillet. Obligeant les matons à ouvrir et entrer, ralentissant leur ronde. Si son temps est suspendu, alors le leur le sera aussi. La lutte s'insère dans ce rapport de force, non pas sur l'espace qui est entièrement régi par les autorités pénitentiaires, mais sur le temps, sur le rythme. L'objectif tactique est de les obliger à s'arrêter, et donc à écouter. Mon frère demande plusieurs fois à s'entretenir avec l'administration pénitentiaire pour qu'elle rende des comptes sur ses refus d'aménagement de peine. L'administration pénitentiaire l'ignore. Alors, en plus du drap, il ajoute un papier sur lequel il écrit « Je veux parler à la directrice », obligeant les matons à suspendre leur activité, entrer dans la cellule, être en interaction avec sa demande. En imposant son rythme, il déséquilibre le rapport de pouvoir. L'espace et le temps fonctionnent comme une unité cohérente, dès lors qu'ils sont co-construits et corrélatifs. À partir du moment où le rapport de force est renversé sur l'un ou sur l'autre, c'est toute l'unité qui est désorganisée. Ainsi, dans un espace cloisonné, surveillé et totalement maîtrisé par les agents pénitentiaires, le temps supposé tout suspendu ou mort des prisonniers devient un lieu de résistance.
Le maton peut avoir l'impression que le prisonnier face à lui est dans une temporalité suspendue. Quelques années d'incarcération comme une parenthèse dans sa vie, parce qu'il est ici le seul à passer les portes dans les deux sens. Le prisonnier, lui, a tout son temps. Encore un drap tendu, encore un œil bouché, encore un arrêt. Face au mur, main dans le dos, mon frère stagne malgré les sommations et oblige les matons à l'envoyer au mitard. C'est le début du blocage. À chaque fois qu'il en sort, il se débrouille pour y être renvoyé. Il se fait fouiller à nu systématiquement. Alors il cache une lettre dans sa poche pour leur faire perdre leur temps. Lorsque les matons la trouvent, pensant tomber sur une preuve de sa non-coopération, ils découvrent une succession d'articles afférents aux fouilles et aux conditions dans lesquelles elles doivent être exercées. Mon frère entame une grève de la faim, conditionne son corps à supporter l'espace du mitard. Il dit « Je reste torse nu pour m'habituer à ne pas avoir froid » et agit chaque fois qu'il le peut aux interstices de sa condition, en se réappropriant sa temporalité, en imposant un rythme antinomique à l'ordre spatio-temporel carcéral. Mon frère résiste. Et par ce fait, existe entièrement et totalement, fort à ce qu'il a été transmis et de ce qu'il s'apprête à me transmettre.
À l'extérieur, je deviens le relais de leur lutte pour faire circuler la parole, désisoler leur action et faire que même les murs de la prison aient des oreilles. Nous inventons des manières de dialoguer entre les temps suspendus d'isolement total. Nous devenons complices, chacun mettant en œuvre les outils dont il dispose pour établir les tactiques nécessaires à la résistance. Les portes qui ne s'ouvrent que d'un côté ne sont pas des portes, et ici aussi, la nécessité finit par s'imposer à la pierre. Mon frère à l'intérieur, moi à l'extérieur. Tous les deux coordonnés. Dans le sens d'une lutte radicale, on recrée notre propre unité spatio-temporelle. J'accompagne mon frère, je reconnais mon camarade, comme notre père nous l'a appris, et acte une nouvelle fois la nécessité d'une solidarité totale et inconditionnelle entre le dedans et le dehors. Parce que les murs, avant d'être des murs, c'est d'abord de la poussière. Au début du confinement, mon frère sort avec un bracelet. Il me tend un carnet. Tiens, t'en fais ce que tu veux. Son journal de mitard. J'ai craint de l'ouvrir jusqu'à cet article. Ma condition de meuf de milieu populaire m'a conduit aux 9 mètres carrés d'une cité universitaire. La condition de mec de milieu populaire de mon frère l'a condamné aux 9 mètres carrés d'une cellule. Ce carnet, c'est ce qu'il reste d'un présent carcéral qui a fait continuité. Le récit d'une lutte intérieure qui n'a pas attendu que les portes s'ouvrent des deux côtés pour échapper et venir jusqu'ici.
Voilà pour la lecture. Merci à Myriam d'avoir écrit ce texte qui nous parle. On a coupé, on a fait tout lu en entier.
Parce qu'il faut que ça rentre dans notre créneau d'une demi-heure.
C'est ça.
Aussi parce que c'est des passages d'analyse un peu plus théoriques et un peu moins faciles à comprendre, qui je pense sont mieux à lire qu'à entendre à la radio. Mais
carrément.
On vous invite grave à aller les lire dans la revue.
Ouais, si c'est possible, on vous invite à lire l'entièreté du texte qui est chambé, quoi. Carrément. Moi, j'avais envie de revenir à un moment donné. Ça parle des révoltes qu'il y a eu suite à la mort de Jawed en 2018. Je voulais juste retourner un peu de contexte. C'est une personne qui est décédée à la maison d'Aret Seis dans la nuit du 14 au 15 avril 2018. Selon le parquet, c'est une mort suite à un suicide, mais ça a été réfuté par les proches. En fait, il est mort au mitard et il s'agit d'un meurtre. Et ça a été porté par les proches comme par les détenus. Il y a 90 détenus qui ont refusé pendant plusieurs heures de revenir en cellule le lundi suivant, le 16 avril. Et c'est devenu encore plus gros. Il y a 200 détenus qui par la suite, le jour d'après, ont refusé de réintégrer leur cellule à nouveau. Les ERIS sont intervenus et ils ont violenté les détenus pour qu'ils réintègrent leur cellule. Et en parallèle, il y a aussi eu des révoltes dans la rue, à l'extérieur, suite au décès de Jawed. Voilà, pour revenir un peu sur sa mort qui n'est pas un suicide, mais un meurtre. Je sais pas si t'avais envie de dire des trucs sur le texte.
Bon, après, c'est des trucs qu'on dit souvent, mais enfin, j'ai l'impression que le texte, il parle beaucoup de comment elle, en tant que proche, elle a toujours fait des efforts pour que pour pas que la personne soit isolée, pour que elle soit pas hors du temps. C'est un peu, elle parle beaucoup du temps dans ce texte-là, notamment aussi dans des bouts qu'on n'a pas lus. Et que voilà, c'est vraiment une idée de casser l'isolement et de dire ce qui est vrai, que ce qui se passe en prison, en vrai, ça a aussi une portée à l'extérieur. Elle parle par exemple des moments où, après l'enfermement, on en garde une trace dans nos souvenirs, des efforts que ça, que ça implique pour les proches. Voilà, alors, tout ce qui fait que la prison, en vrai, elle impacte le reste du monde. Et que ses efforts en tant que proche s'axent vraiment dans cette dynamique-là.
Grave. Moi, il y a un bout qui m'a un peu parlé quand elle parle de maintenir le lien et le dialogue, et notamment qu'elle parle de son quotidien avec sa mif et comment ça fait du lien à l'intérieur, qu'ils regardent les mêmes séries, qu'ils mangent ensemble. Du coup, c'est un bout qui m'a particulièrement touchée. Et j'avoue que c'est un truc que j'ai envie de faire aussi, de maintenir le dialogue et le lien avec vous qui nous écoutez. Et on est ensemble le dimanche soir. Peut-être ça, c'est un petit endroit du coup où il y a du lien. Et on peut lutter ensemble, soutenir vos luttes. Ouais. Et j'avais aussi envie de rebondir sur un bout où elle parle de son frère A qui du coup résiste dans les interstices où c'est possible, qui cache le yé de sa cellule, qui rompt avec le rythme temporel imposé par la tôle. Et du coup, moi, ça me fait un peu réfléchir et penser à tous ces interstices, ces endroits où nous on peut, où tout le monde peut lutter. Et ça me fait penser à ce film qu'on avait vu qui s'appelle Nos robaron las noches, qui se passe au Mexique et qui parle de l'expérience de proches de prisonniers et de meufs en particulier. Et ça me rappelle l'une d'entre elles qui disait, il y a des trucs en fait, on est obligé de le faire, la tôle nous l'impose, ça n'empêche qu'on peut quand même résister trouver ces endroits où ça lutte. Et elle racontait par exemple qu'avant son parlu, elle était obligée de faire une fouille à nu. Et du coup, elle a décidé de complètement se dessaper devant la matone de façon super théâtrale. Genre, vas-y, tu peux me voir à poil, voilà, je suis à poil. Et la matone était hyper gênée, de genre, rhabille-toi, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, à cet endroit, elle avait un peu gagné, quoi. Enfin bref, ça me faisait penser à ce petit parallèle de genre, ces interstices, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Même ça, le texte parle un peu aussi de la transmission de ses méthodes de lutte. Alors, quand il parle des prisonniers basques qu'il a rencontrés dans cette prison, où souvent voilà, les idées de comment résister, ça se transmet d'ancien prisonnier à nouveau prisonnier.
Grave. Ouais, c'est clair.
Et nous, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à nous les écrire et on les transmettra par les ondes.
Ah, mais carrément, avec grand plaisir en fait. C'est clair. Ouais. Carrément, carrément. Et on les transmettra. Je sais pas si tu voulais dire d'autres trucs.
Pas particulièrement.
Ok.
On s'excuse pour les 3 petites minutes de retard de début d'émission.
Oui, oui, désolé pour ça. Pas très ponctuel ce soir. Moi, j'avais envie de quand même faire un peu des dédicaces ou genre envoyer le gros, gros big up. Déjà, toutes les personnes qui nous écoutent, tous les prisonniers, toutes les prisonnières, force à vous, force à tous vos proches et toutes vos proches autour. J'avais envie aussi de faire une dédicace à Zouzou, à Mignès, à Foued, à Kémy, à Karim, à Nino et à Nine, et tous les autres, quoi. C'est les noms qui me viennent, mais on pense fort, fort à vous Et vous avez le gros big up de toutes les personnes de la team.
Grave. Gros big up à vous.
Grave. Et aussi à Franck, et aussi à Steve, et aussi à Francis, tous les autres. Et d'ailleurs, Steve, on va te mettre de la musique italienne ce soir, tu nous as demandé. Et oui, si ça le fait, on va vous passer du coup Militante de Natale Luciani. Désolée, j'ai pas trop l'accent italien. Et ça part. À la semaine prochaine. Plein de force.
À la semaine prochaine. D'azioni infinito di libertà e grande appetito senza ganta e serrate e bottante notte garede che la si spereghi in mente di giovenini una bagiella a fromui fuggì oggi giorno più che mai orisana tanti guai. Ta continue dia ci ritroveremo dia a rota continue dia ci ritroveremo dia.